Roman de Jean-Charles Pichon. L'abondance du cœur. Publié aux éditions Amyot Dumont en 1955. L'abondance du cœur. À Françoise. L'amour est un sentiment qui, pour paraître honnête, a besoin de n'être composé que de lui-même, de ne vivre et de ne subsister que par lui. Champfort. Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Guillaumet, d'après Saint-Exupéry. Première partie, mars. Depuis 3 mois, on en parlait. Depuis 6 semaines, on l'attendait. Depuis 10 jours, on ne vivait plus que pour ça, à Villaroche. Mais il y avait plus d'un an qu'à l'usine, les plans en étaient dessinés. Et un homme en connaissait toutes les manœuvres bien avant l'arrivée du nouveau prototype sur le terrain, un matin brumeux de mars, Jean Benoiston, pilote d'essai. Pour tout le monde, c'était jour de fête, longuement préparé dans le secret et le silence. Du grand patron au mécano, tous, ingénieurs, expérimentateurs, directeurs et pompiers, moralement, avaient revêtu le costume des noces pour accueillir l'oiseau étrange, plus étrange que ses devanciers, plus effilé, plus complexe et plus stable, le SC-101. Qui peut-être réussirait, qui devait réussir, le passage du mur du son en vol horizontal. Pour tout le monde, la noce. Mais Jean Benoiston était le marié. Un peu avant l'heure de la cérémonie, Jean est venu rôder autour du hangar, fiancé heureux qui rend à sa future épouse l'ultime visite de politesse et que les caméristes font attendre à la porte, cependant qu'elle revêt sa robe immaculée. Le ciel est gris, mais le SC brille pour deux, comme deux soleils. Jean ne se lassera pas de sitôt de contempler le fuselage étroit, de se blottir sous l'aile oblique. Dans un instant, le grand patron lui-même va descendre dans l'arène sur la piste. Il promènera sur tout et sur le prototype son regard glacé, comme il déshabillerait une femme. Les huiles l'entoureront. Petit, râblé, vieux pour un meneur d'hommes, mais jeune pour ses 72 ans, lent, il entreprendra le tour du grand oiseau dans lequel il a placé tous ses espoirs et une partie de sa fortune. Ragon, le directeur du terrain, dont la villa s'élève près des hangars, le commandant, Rolla, directeur des essais en vol, Villamont, l'ingénieur en chef, et quelques autres de moindre importance, respectueusement, attendront la parole à tomber de ses lèvres. Loin derrière tout le monde, Jean regardera le ciel et pensera « Le premier vol ne sera pas pour demain. » Mais en attendant, il est seul, heureux de l'être. Quel homme, le jour de son mariage, n'a pas comme une dernière hésitation devant la portée de l'acte qu'il accomplit ? Est-elle ce que je crois ? Ne me suis-je pas trompée sur elle? Ou bien, si son souci est de donner plus que de prendre, saurais-je la rendre heureuse? Ai-je le pouvoir de révéler cette femme, ma femme, à elle-même? Suis-je digne d'elle, enfin? Ces questions, que jamais Jean ne se pose au sujet d'une femme. Ça lui est arrivé une fois, ça a mal fini. Devant un prototype nouveau, l'appareil inconnu de tous, sinon de lui, dans lequel il va vivre pendant des semaines, des mois, il se les pose. sans inquiétude. Évoque, avec la netteté d'une épure, la place de chaque cadran, contrôle de vol, contrôle du moteur, de chaque commande, compas ou manomètre, éprouve la force et l'endurance de son corps, prêt, s'il le faut, à supporter la décélération. Les ingénieurs ont dessiné tes plans et le grand patron t'a payé. Les ouvriers ont assemblé une à une les pièces de ton beau corps, fixé sur le tableau de bord les quelques 80 manettes, boutons, lampes témoins, inscripteurs qui feront de toi le plus docile de mes élèves. Mais ni le père ni la mère ne transforment leur fille en femme. Sous le hangar, où sans cesse résonne un vacarme de forge, Jean ne s'intéresse pas aux autres appareils dont il n'est pas responsable, et non plus aux ouvriers, mécaniciens, chefs d'équipe dont quelques-uns pourtant sont de bons camarades. Jean Benoiston a toujours été seul. Bien des gens qui le connaissent de nom s'étonneraient de son aspect. D'une taille à peine supérieure à la moyenne, mince et nerveux, les cheveux en brosse, on le prendrait aisément pour un employé de banque ou quelque fonctionnaire. N'étaient ses yeux d'un jaune bleu inhabituel, où se reflètent, croirait-on, des paysages également non coutumiers. Encore ses yeux ferait-il penser à un poète plutôt qu'à un pilote. Étrange poète. 20 ans d'aviation, dont 13 d'aviation militaire, 8 appareils ennemis abattus, 2 pendant la drôle de guerre et 6 pendant celle qui ne fut pas drôle, 2 ans d'Air France et 4 de pilotage d'essai, ce qu'ironiquement il résume 6 000 heures de vol, 1 001 femmes. Car il y eut les femmes aussi, qui lui donnent peut-être ce regard singulier, à moins que ce ne soit le mépris qu'il éprouve pour les gens du sol. Un rampant lui sourit fraternellement. Il répond par un sourire, mais ni l'homme ni le sourire ne sont vraiment là. Et Jean n'y peut rien, sans doute. Ça a toujours été comme ça. Il se souvient. La première fois qu'il vola pour de bon, c'était à Reims, en 1934, sur un Breguet 19. Son flirt d'alors, une blonde, assez grande, pour peu que ses souvenirs soient fidèles, l'attendait avec d'autres filles sur la route devant le terrain. Tandis qu'il s'approchait d'elle, il ne songeait pas à lui être désagréable, mais tout à coup il la vit, bringue, dégingandée, aux longs bras gourds, aux yeux quémandeurs et bêtes. Ferme, il passa sans s'arrêter. Son uniforme, peut-être, le sauvait de la fille, son uniforme et la fierté de le porter. Mais il n'aurait pas cru quiconque le lui eût dit, car il était naïf, ce garçon de 19 ans, engagé 11 mois plus tôt au 34e d'aviation. Il s'avoue quelquefois qu'il l'est resté. Cependant, au bistrot, où Carnetti, Parvagne et lui entrèrent pour boire un coup, le même recul l'isola des 4 ou 5 civils rassemblés devant le comptoir. Il arrive, comme aujourd'hui, devant le SC-101 Vierge, qu'il y repense et se persuade que tout a commencé ce jour-là par l'impression que les « mirontons » on n'appelait pas ainsi les civils en 1934, comment était-ce ? Que les « mirontons » ne sont qu'imparfaitement des hommes. Jean n'a pas besoin de fermer les yeux pour retrouver son impression d'alors, pour évoquer leurs gestes désaccordés qui ne présentaient aucun sens. Une méfiance soudaine. des personnages qui ils se jouaient, chacun pour soi et un pour tous, confiant en la règle du jeu qui veut précisément que de tels personnages on les prenne au sérieux, en dépit de ce qui sans cesse les contredit. Qui étaient-ils ? Des ouvriers, des rampants, des employés, j'en ne sais plus, à tous, uniformément aujourd'hui, ils prêtent le visage de l'ingénieur en chef, Villamont, qu'ils n'aiment pas. Mais le souvenir demeure fidèle de l'impression reçue. Des marionnettes, voilà ce qu'ils étaient, et leurs paroles aussi absurdes que leurs gestes. Plus tard, de retour chez ses parents, son père vivait encore, la même sensation le poursuivit, de ne pas être à sa place, de ne pas être à son aise. Mais il ne voulait pas juger son père, sa mère. Il avait fui sur le balcon de la maison qu'ils habitaient alors à Reims pour regarder le ciel. Qui ne joue pas ? Il avait su que désormais, il ne jouerait pas, lui non plus. Qu'il ne respecterait pas les règles des Pékins. Et du même coup, compris la nature du désir qui, depuis des années, le portait à devenir pilote. Rob, son mécanicien, messager volontaire du cortège nuptial, lui adresse de loin des signes. Jean sourit de sa complaisance, inhabituelle au souvenir de l'adolescence. Mais il ne parvient pas à s'en repentir. J'avais déjà deviné qu'il y a deux sortes de gars, ceux qui toujours savent ce qu'il faut faire, même si les règles s'en trouvent bouleversées, et les autres, qui, dans une chute en vrille, tireront toujours sur le manche, parce qu'ils ont cru comprendre que dans n'importe quel cas, pour redresser le piège, c'était la chose à faire. Dès ce 23 février 1934, je savais, moi, que je serais parmi les premiers. 20 ans de vol ne l'ont pas persuadé du contraire. Tout au plus, 20 ans de vol ont-ils transformé le mépris juvénile en une carapace d'acier qui ne gêne même plus ses gestes, comme si, par une prodigieuse métamorphose, Jean Benoiston, pilote, était lui-même devenu bahut, ferraille, piège. Un piège auquel tous et toutes se laissent prendre. Il ne s'est pas marié. Il vit avec sa mère. Mais il a un fils qu'élève maman. Les deux seuls êtres au monde, avec les camarades, que Jean ne méprise pas. Maman se lève à 7 heures pour préparer le départ de Michou au lycée.